Vous écoutez France Culture.
France Culture, il est midi et demi. Tout de suite le journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Au deuxième jour de son long périple des commémorations du centenaire de l'armistice, Emmanuel Macron a honoré ce matin la mémoire des poilus héroïques tombés au combat avant d'amorcer cet après-midi le volet, disons, plus politique et économique de son déplacement dans cette région touchée par le chômage et la désindustrialisation.
Et cette itinérance mémorielle survient dans un contexte de grogne grandissante.
En particulier autour de la question du pouvoir d'achat et notamment de la hausse du prix du carburant. Interrogé à ce sujet, le chef de l'État a dit aujourd'hui assumer pleinement la hausse de la taxation sur le diesel.
Sans surprise, avec 56,4% des voix, la Nouvelle-Calédonie a choisi hier de rester dans le giron français.
Il reste que les indépendantistes, que les sondages donnaient largement perdants, ont tout de même modifié en leur faveur leur rapport de force politique.
Le président du tribunal pour enfants de Bobigny et ses 14 juges dénoncent la dégradation des dispositifs de protection de l'enfance dans leur département.
C'est ce qui ressort d'une tribune en effet publiée aujourd'hui par nos confrères de France Inter et du journal Le Monde. La justice française a décidé par ailleurs de lancer des mandats d'arrêt internationaux contre trois hauts responsables du régime syrien de Damas. Et puis c'est aujourd'hui que les États-Unis rétablissent les sanctions contre le secteur pétrolier et financier iranien. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
On va faire un point sur l'état de nos libertés aujourd'hui en France, entre accroissement des libertés individuelles et délitement de notre vivre ensemble. On en parlera avec notre invitée. Elle est juriste, professeure de droit à Paris 1. Elle s'appelle Muriel Fabre Magnan et publie l'Institution de la Liberté au PUF.
Merci, à tout à l'heure. Quoi de mieux qu'un néologisme pour incarner le nouveau monde, l'itinérance mémorielle. Voilà donc le nom trouvé à ce long périple inédit débuté hier dans la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg et qui conduira toute la semaine le président de la République à travers 11 départements de l'Est et du Nord de la France pour célébrer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. L'occasion de célébrer les héros de la Grande Guerre tout en allant à la rencontre de cette France périphérique des territoires frappés par la crise ou comment revisiter le passé pour mieux appréhender le présent. Alors ce matin, premier rendez-vous avec ces lieux emblématiques de la Grande Guerre. Le chef de l'État était à Morhange, cette petite ville de Moselle, au milieu des champs et des bois où l'armée française a subi l'une de ses premières défaites. Emmanuel Macron y a rendu hommage aux quelques 40 000 poilus qui y ont trouvé la mort. C'était en août 1914. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Cet après-midi, comme cela sera d'ailleurs le cas durant toute cette semaine, Emmanuel Macron se consacrera cette fois-ci aux problèmes actuels de la région, pas seulement dévastée par la guerre, donc, mais également meurtrie par la désindustrialisation. Est-ce qu'avec ce périple, Emmanuel Macron peut vraiment espérer restaurer le lien avec les Français?
En tout cas, c'est le but. Emmanuel Macron entend restaurer ce lien avec les Français qui s'est abîmé ces derniers mois, raison pour laquelle en marge des commémorations, il a prévu d'aller à la rencontre des Français, visiter des entreprises, animer par exemple, vous le disiez, un forum économique régional cet après-midi. Et il nous donne ainsi une nouvelle illustration du en même temps macronien. Mais cette semaine d'itinérance a l'ambition d'aller encore plus loin. Il s'agit de faire le lien entre le passé et le présent, entre les meurtrissures d'hier du fait de la guerre et celles d'aujourd'hui, fruit de la crise économique. Il entend aussi retisser le lien avec les territoires, avec les élus locaux, lien qui s'est lentement détérioré depuis son élection, et en même temps donner une dimension internationale à cette semaine de commémoration, puisqu'elle doit se terminer le 11 novembre sous l'Arc de Triomphe avec près de 80 chefs d'État et de gouvernement. Il fait donc à la fois du local et du mondial, montrant qu'il peut tout aussi bien parler à Donald Trump et Vladimir Poutine qu'aux élus d'une petite commune rurale de Moselle ou des Ardennes. L'idée peut paraître plaisante, c'est une manière d'essayer de redonner une perspective à son action, de l'inscrire dans le temps long, dans le passé, dans le présent, dans l'avenir, de montrer qu'il se préoccupe de ce qui se passe dans les territoires les plus reculés, les plus en difficulté de la République, tout en resituant son action dans un contexte beaucoup plus global. C'est donc à une gigantesque superproduction politico-économico-mémorielle à laquelle nous convie Emmanuel Macron avec cette semaine d'itinérance. Le risque, c'est celui de la confusion, que le message ne soit pas clairement identifié par les Français, que se dégage au bout du compte quelque chose d'assez brouillon. Et puis il se pourrait bien qu'il n'y ait pas grand-chose à gagner et beaucoup à perdre dans cette affaire-là, parce qu'il y aura sans doute très peu de Français à congratuler le chef de l'État. Il ne décide de rien à travers cette itinérance. Il commémore des événements qui sont le fruit de décisions qui ont été prises par le passé, donc pas par lui. En revanche, est en train de monter ces dernières semaines une colère au sein d'une partie de la population, notamment dans les territoires ruraux. Une colère vis-à-vis des décisions prises par le président et son gouvernement, comme la hausse des taxes sur le carburant.
Merci Stéphane Robert. Épreuve sans doute que ce périple présidentiel n'a pas pour seul objectif de ranimer la tradition politique des commémorations, mais répond également à une stratégie de communication. Emmanuel Macron annonce ce matin dans un entretien aux journaux du groupe Ebra qu'il assume parfaitement la hausse de la taxation sur le diesel et que, même s'il comprend les doutes des Français sur la question du pouvoir d'achat, il préfère la taxation du carburant à la taxation du travail. Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour.
Alors à l'évidence, l'exécutif a bien conscience que la grogne est en train de monter, comme en témoigne d'ailleurs cet appel à bloquer les routes le 17 novembre prochain. D'où cette riposte du chef de l'État à laquelle s'ajoute, Frédéric, en réalité la mobilisation de tout l'exécutif.
Oui, le gouvernement a commencé à répondre de manière assez traditionnelle la semaine dernière avec Édouard Philippe à l'Assemblée nationale qui exprime tout bonnement que cette hausse de taxes, c'est une mesure écologique. Et puis, l'exécutif s'est rendu compte que la colère prenait sur les réseaux sociaux. Ce sont des appels à manifester, des messages de ras-le-bol qui sont partagés plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers de fois. Il se passe quelque chose. Alors le gouvernement a décidé ces dernières heures de riposter là où ça se passe, sur Internet, où une certaine Jacqueline du Morbihan a diffusé une vidéo coup de gueule très reliée, 5 millions de vues, où elle se plaignait justement de la persécution, je cite, contre les automobilistes. Et c'est même une ministre qui est montée au front et qui a posté une vidéo sur les réseaux sociaux prise depuis chez elle. Emmanuel Wargon est secrétaire d'État à l'écologie.
Et je suis là parce que je voudrais réagir au coup de gueule que Jacqueline a poussé sur les réseaux sociaux pour partager 2-3 faits avec vous. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a aucun complot du gouvernement contre la voiture. Nous savons très bien que la voiture, c'est un mode de transport indispensable, en particulier dès qu'on sort des villes.
Et s'ensuit une liste de mesures que le gouvernement a pris en faveur des Français, comme la prime à la conversion de véhicules ou le chèque énergie. De même, des visuels ont été produits pour soutenir l'argumentation du gouvernement sur les réseaux sociaux. On y voit le prix moyen du litre de gazole en Europe, qui place la France dans le ventre mou. D'autres visuels accusent l'extrême droite d'être à l'origine de la mobilisation et proclament « sans moi » le 17 novembre. Si ces visuels ne sont pas clairement estampillés du gouvernement, ils émanent en tout cas au moins de proches de la majorité. Alors l'idée n'est évidemment pas de convaincre le noyau dur des mécontents, mais disons de faire réfléchir les hésitants. Il s'agit d'éviter non pas un mouvement de colère, mais un mouvement de masse.
Merci Frédéric Saïs. Et pour prolonger le débat sur la hausse du prix du carburant, invité de ce journal, Philippe Chalmin, économiste, fondateur du cercle Cyclope, qui chaque année publie un rapport complet sur l'état et les perspectives des marchés mondiaux de matières premières. Avec moi pour vous interroger, Annabelle Grelier. Une première question, Monsieur Chalmin. Les Français accusent l'État aujourd'hui et les taxes de faire grimper le prix du carburant. Est-ce que c'est la faute vraiment du gouvernement ?
Non, la hausse des prix du pétrole, c'est la faute au marché, c'est la faute de Trump. En sortant de l'accord sur le nucléaire iranien, il a incontestablement rajouté un élément de risque qui a asservi l'OPEP et la Russie. Alors, ceci étant, on a connu bien pire. Et il y a un certain nombre d'analystes qui anticipent que, à la moindre tension dans le Golfe, et Dieu sait s'il peut y en avoir, on pourrait remonter à 100 dollars. Le dollar lui-même vis-à-vis de l'euro a été largement soutenu par le remontée des taux aux États-Unis. Donc de ce côté-là, je dirais que l'État ne peut rien dire. Il ne peut jouer éventuellement que sur la partie taxe sur les carburants et il a fait le choix de ne pas y toucher et de continuer par contre à remonter les taxes sur le diesel de manière à en ramener le prix à peu près au niveau de celui de l'essence.
Alors, quels sont les leviers donc pour le gouvernement s'il voudrait faire baisser la facture des Français ?
Le seul levier, ce serait de diminuer la fiscalité sur les carburants. Or, à ce niveau-là, d'une part, il n'a pas énormément de marge de manœuvre étant donné le déficit budgétaire, et d'autre part, cela va un petit peu à l'encontre de tout ce qu'il a préconisé et de tout ce qui a été préconisé par tous les milieux politiques d'ailleurs réunis en matière de transition énergétique et de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si on veut décarboner, il faut rendre le coût des carburants plus élevé. de manière à accélérer le passage vers des énergies renouvelables. Simplement, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Le véhicule électrique, c'est très mignon, mais pour l'instant, ça n'est pas une alternative à la portée de toutes les bourses. Et donc, c'est vrai que sont particulièrement pénalisés tous ceux qui utilisent leur voiture au quotidien, en particulier dans les milieux ruraux, à l'écart des zones où fonctionnent des transports en commun efficaces.
Et alors, il promet, le président promet pour la journée des solutions innovantes pour faire baisser la facture. Vous avez une idée de ce que pourraient être ces solutions innovantes ?
Le problème est que il faut arriver à cibler ceux qui sont vraiment concernés, pour lesquels la facture carburant représente une part importante de leurs dépenses. Comment arriver à cibler exactement ceux qui en ont besoin et qui incontestablement sont touchés par cette augmentation des coûts sans pour autant offrir un effet d'aubaine aux autres, ça n'est pas évident. Moi, j'avoue que je suis d'ailleurs un petit peu surpris de cette flambée de colère, sachant que normalement, il y a une nouvelle hausse de la fiscalité sur les carburants qui est programmée au 1er janvier. Alors celle-là, faudra-t-il probablement un peu la modérer. Mais il faut arriver à faire comprendre aux Français que l'État ne peut pas tout et qu'il n'a pas la main sur le prix mondial du pétrole comme il n'a pas la main sur le prix mondial du gaz.
Merci Philippe Chalmin.
Je vous en prie.
Et merci également à vous, Annabelle Grelier. Puis j'ajoute, pour être tout à fait complet, que les enseignes de la grande distribution Leclerc et Carrefour ont pour leur part annoncé qu'elles vendraient le carburant à prix coûtant durant tout le mois de novembre. Mémoire d'un côté et rééquilibrage des territoires de l'autre. À bien des égards, le référendum organisé hier en Nouvelle-Calédonie posait lui aussi cette question de savoir comment rompre aujourd'hui avec un héritage, en l'occurrence celui de la colonisation, tout en construisant un nouveau vivre ensemble à même de lutter contre les inégalités et les frustrations. Alors comme attendu, la Nouvelle-Calédonie a choisi finalement dimanche de rester dans le giron français. La pleine souveraineté a été rejetée par 56,4% des votants. Il n'en reste pas moins que le niveau du non est très en deçà des espérances des anti-indépendantistes, ce qui rebat en partie la donne politique et explique par exemple que hier soir, alors que les vaincus se montraient plutôt satisfaits, les vainqueurs, eux, semblaient déçus. Alors quel lendemain se dessine à présent pour la Nouvelle-Calédonie ? Le jour d'après, c'est un reportage à Nouméa signé Farida Noir.
Le résultat définitif n'était pas encore connu.
Sur la place des Cocotiers, assis sur un banc, son petit poste collé à l'oreille, Alex écoute la radio locale, soulagé que le non l'ait emporté hier.
La France nous donne tout. Il manquait rien pour nous, les Mélanésiens. Si c'était le oui qui avait gagné, mon cœur ne serait pas tranquille. Mais là, j'ai la paix, là, parce que c'est le non qui a remporté. Ça veut dire que on va toujours vivre comme on vivait avant.
56,4% pour le non, 43,6% pour le oui. Un score serré. Les loyalistes avaient imaginé un plus grand écart qu'ils pourraient obtenir aux alentours de 70% des suffrages. Pour Jean-Louis, cela rabat clairement les cartes.
Pour certains qui disaient qu'il n'y aura pas un deuxième, troisième référendum, je crois qu'il faut revoir la copie. Il faut aller à terme de l'accord qui a été signé. Et puis, il faut le dialogue dans ce pays pour réduire les disparités.
Pour Ludovic, qui a voté non, le résultat de ce référendum va raviver des tensions.
Ça va semer la zizanie, à mon avis. Autant si on avait eu un 40-60 ou un 20-80, ça aurait été. Mais là, c'est une égalité. Donc, les loyalistes vont se dire qu'ils sont chez eux, il faut rester. Et puis les enfants du pays, les Mélanésiens et les Kanaks vont se dire qu'ils ont pratiquement gagné. Donc eux aussi, ils veulent s'approprier pas mal de choses.
Les deux autres référendums sont prévus en 2020 et 2022.
À Marseille, deux immeubles se sont effondrés en plein centre-ville ce matin. Deux immeubles qui, a priori, avaient été signalés depuis plusieurs mois pour leur vétusté par les habitants du quartier. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a lui-même indiqué que l'un des deux édifices avait fait l'objet d'un arrêté de péril et n'était donc plus habité. L'autre, en revanche, avait des habitants qui potentiellement auraient pu le réhabiter. Le premier bilan fait état de deux blessés légers. Dans une tribune publiée aujourd'hui par le journal Le Monde et nos confrères de France Inter, les 15 juges des enfants du tribunal de Bobigny lancent un appel au secours face à l'état de la justice des mineurs en Seine-Saint-Denis. Florence Turne, bonjour.
Bonjour.
Dans leur département, les mesures d'assistance éducative, notamment, seraient soumises à des délais de prise en charge inacceptables, écrivent donc ces magistrats, lesquels ne sont pas seulement chargés de la répression des mineurs délinquants, mais aussi de la protection des mineurs en danger.
Oui, les professionnels de la justice sont déjà dénoncé à plusieurs reprises le manque de moyens et leurs conditions de travail à Bobigny, la deuxième juridiction juridiction la plus importante de France. Depuis 2016, 8 postes de magistrats et 19 greffiers supplémentaires ont été affectés à ce tribunal. Mais aujourd'hui, ce sont les 15 juges des enfants qui lancent cet appel au secours. 15 juges qui se dépeignent eux-mêmes comme les juges des mesures fictives. Les dossiers s'empilent sur leur bureau, jusqu'à 450 pour la seule enfance en danger. Ces mineurs que le juge peut décider de retirer d'un milieu familial toxique, ceux pour lesquels il peut ordonner des mesures d'éducation ou d'accompagnement. Les chiffres que livrent les magistrats sont édifiants. Il peut s'écouler jusqu'à 18 mois, un an et demi, entre l'audience où ils rendent leur décision et l'affectation du suivi à un éducateur spécialisé. Près de 900 mesures sont en attente, autrement dit 900 familles et autant de situations humaines. En l'occurrence, l'appel des 15 juges ne se cantonne pas aux moyens affectés au tribunal de Bobigny. Il pointe un véritable effet domino engendré par le manque flagrant de personnel éducatif lié aux restrictions budgétaires et aux difficultés de recrutement en Seine-Saint-Denis, un département marqué par la dégradation des conditions de travail éducatif et social, alors que de l'autre côté du périphérique, disent les juges, la prise en charge des mesures éducatives se fait sans délai. Une inégalité inadmissible de réponse aux difficultés des familles, concluent les signataires. Ils ne sont pas les seuls à la souligner. En septembre dernier, tous les élus de Seine-Saint-Denis avaient été reçus à Matignon pour dénoncer d'une même voix les inégalités de traitement à l'égard de leur département dans le domaine justement de la justice, de l'éducation et de la police de proximité.
Merci Florence Turm. Voilà 7 ans maintenant que la Syrie est à la fois l'épicentre des lignes de fracture qui traversent le Proche-Orient, en même temps qu'un véritable casse-tête pour les Européens dont l'impuissance a pesé jusqu'à présent sur le conflit est d'autant plus criante que les enjeux sont pourtant élevés. Et pour autant, même si l'Union Européenne paraît, c'est vrai, souvent marginalisée, l'activisme de certains de ses membres montre qu'elle n'est pas totalement démunie. C'est le cas en particulier de la France, dont on a appris ce matin qu'un juge d'instruction avait lancé des mandats d'arrêt internationaux contre 3 hauts responsables du régime syrien. Pour complicité d'actes de torture, complicité de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Alors qui sont ces 3 dignitaires du régime de Damas? Les précisions de Christian Cheneau.
Dans le système sécuritaire syrien, ce sont 3 hommes clés, des rouages essentiels qui ont organisé la chasse aux opposants. Le plus célèbre des 3 est sans conteste Ali Mamlouk. Officiellement, il occupe le poste de directeur du bureau de la sécurité nationale. Dans les faits, il est le bras droit de Bachar el-Assad pour tout ce qui concerne les questions sensibles. C'est dans son bureau qu'il reçoit les délégations des membres de services de renseignement occidentaux qui continuent à maintenir un fil discret de communication avec Damas. C'est encore lui que le président syrien envoie dans la plus grande discrétion en Europe pour renouer des liens sécuritaires sur le dossier des djihadistes étrangers présents sur le territoire syrien. Sa dernière mission connue remonte à janvier dernier quand Ali Mamlouk s'est rendu à Rome pour y rencontrer son homologue italien. La seconde personnalité visée par le mandat d'arrêt émis par la France s'appelle Jamil Hassan. Il est le chef des renseignements de l'armée de l'air, l'un des plus puissants services du pays, un héritage d'Hafez el-Assad, le père de Bachar, qui était pilote de chasse. Jamil Hassan est en charge des centres de détention où la torture des prisonniers est organisée à grande échelle. Enfin, le dernier homme, Abdelsalam Mahmoud, appartient à la branche investigation des renseignements de l'armée de l'air à Babtouma, dans le vieux Damas. C'est le moins connu des 3, ce qui n'empêche pas qu'il soit lui aussi dans le collimateur de la justice française.
Le secrétaire d'État britannique au Trésor déclare ce matin avoir très bon espoir qu'un accord soit conclu de façon imminente avec l'Union européenne sur les services financiers après le Brexit. De son côté, le Sunday Times croit savoir que la première ministre aurait obtenu des concessions de Bruxelles qui lui permettraient d'éviter une frontière dure en Irlande du Nord. En clair, l'UE aurait accepté que les vérifications des marchandises s'effectuent dans les usines et les magasins plutôt qu'à la frontière. Pas de quoi rassurer en revanche les citoyens qui, plus de 2 ans après le référendum et alors que le mois de mars approche, vivent toujours dans l'incertitude. Le mouvement The 3 Million, en particulier, créé pour protéger les droits des ressortissants européens après le Brexit, en a assez et a décidé donc de lancer aujourd'hui une nouvelle action en formant une immense chaîne humaine allant du Parlement jusqu'à Downing Street. En Pologne, à l'issue du deuxième tour des élections locales organisées hier, l'opposition libérale devrait désormais contrôler la plupart des grandes villes du pays. C'est du moins ce que laissent entendre les sondage à la sortie des urnes publiées par les grandes chaînes de télévision nationale. Un résultat qui, une fois confirmé par la commission électorale, scellera donc un important revers pour le parti au pouvoir Droit et Justice de Jaroslav Kaczynski. Les ministres des Finances de la zone euro se réunissent aujourd'hui à Bruxelles. Ils devraient, dans leur ensemble, apporter leur soutien à la commission qui, le 23 octobre dernier, avait décidé de rejeter le budget de la coalition populiste au pouvoir en Italie. L'Italie qui, elle, a jusqu'au 13 novembre pour fournir un budget révisé, sans quoi elle s'exposera à une procédure pour déficit excessif susceptible d'aboutir à des sanctions financières. Demain, tous les regards devraient être braqués vers les États-Unis où se tiendra un scrutin crucial pour l'avenir de l'administration Trump. Les midterms apparaissent plus que jamais comme un référendum sur le président. Et en Floride, notamment le troisième état le plus peuplé des États-Unis, eh bien cette élection de demain fait office de test à l'échelle nationale. En février dernier, la tuerie de masse dans un lycée de Parkland avait endeuillé toute la région. Deux ans après la mort de 49 personnes abattues, elles, par un tireur dans une boîte de nuit Guest et à Orlando. Autant dire que le débat sur le contrôle des armes porté par la colère des lycées de Parkland est un enjeu aujourd'hui, l'un des enjeux du moins cachés de cette élection, comme l'a constaté notre envoyé spécial Claude Guibal.
Ça sent la poudre et les oreilles font mal. Derrière le canon de leur mitraillette, ils sont trois à se relayer, trois copains. Puis ils posent tout sourire, arme à la main, pour des photos en mode guerrier. On est à quelques kilomètres des parcs d'attractions de Floride. Mais à Machine Gun America, l'attraction, c'est de tirer. On est aussi à quelques centaines de kilomètres de Parkland, là où en février, un tueur abattait 17 personnes dans un lycée. En Floride, 32% de la population est armée, un record à l'échelle du pays. Et ce n'est pas une énième tuerie qui va émouvoir Scott Bryan, le manager de Machine Gun America.
Ok, ils ont vécu un truc traumatisant, mais il faut qu'ils arrêtent de s'imaginer que ça leur donne une quelconque autorité pour décider comment on doit vivre, comment on doit être gouverné. C'est dingue. Les armes ne sont pas mauvaises, ce sont des outils. Si vous allez à Brico Dépôt pour acheter un marteau, ça dépend ce que vous en faites. Vous pouvez l'utiliser pour construire votre maison ou pour tuer quelqu'un.
Après la tuerie, le gouverneur de Floride, pourtant proche du lobby des armes, a adopté une loi plus restrictive, une décision historique qui casse pour la première fois l'unité des républicains autour des armes à feu.
Les États-Unis ont rétabli aujourd'hui de nouvelles sanctions contre les secteurs pétroliers et bancaires de Téhéran. Objectif contraindre l'Iran à engager des négociations sur l'arrêt de ses programmes d'énergie nucléaire et de missiles balistiques. Alors ces sanctions s'apparentent en réalité à une espèce de chantage contre les pays tiers qui commercent actuellement avec la République islamique et qui se verront donc interdits de marché américain si toutefois ils continuent d'échanger avec l'Iran. Marie Vienno, bonjour.
Bonjour.
Compte tenu de la menace, beaucoup devraient évidemment choisir plutôt les États-Unis que l'Iran, certains l'ont même déjà fait. Reste que 8 pays devraient quand même bénéficier d'un régime de dérogation.
Alors parmi les pays qui ne vont pas tenir compte des sanctions américaines, il y a bien sûr l'Iran. Le président iranien l'a redit ce matin lors d'une conférence de presse, l'Iran continuera d'exporter son pétrole. Il faut dire que c'est une ressource cruciale pour ce pays. Cela lui assure 95% de ses recettes en devises, devises qui lui permettent ensuite d'acheter notamment des céréales et des médicaments. La Chine aussi va maintenir sa coopération avec l'Iran. On le sait depuis la mi-août, et c'est bienvenu pour l'Iran car la Chine est son premier partenaire commercial. La Chine pourrait en plus faire partie des pays exemptés de sanctions. Le secrétaire au Trésor américain doit donner une conférence de presse d'ici une heure et il va donner effectivement la liste détaillée des nouvelles sanctions applicables depuis hier et aussi désigner donc 8 pays qui seraient temporairement exemptés de ces sanctions, parmi lesquels on trouve la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, le Japon et la Turquie. L'idée c'est de permettre à ces pays qui ont déjà commencé à réduire leurs importations de brut iranien, de pouvoir le faire progressivement. Cela permettrait aussi d'éviter que le prix du baril ne bondisse, car l'Iran est quand même le troisième exportateur mondial de pétrole. Malgré ces demandes répétées d'exemption, l'Union européenne ne devrait cependant pas faire partie de cette liste. Un camouflet pour la diplomatie européenne qui se voit renvoyée dans le camp des pays non coopératifs sur ce nouveau front de guerre économique déclaré par les Américains.
Merci Marie Vienno. Alors que les négociations entre les États-Unis et la Corée du Nord semblent au point mort, et tandis que Washington vient d'imposer, là encore, de nouvelles sanctions à Cuba, donc Kim Jong-un recevait lui ce matin à Pyongyang son homologue cubain. Et puis toujours s'agissant de la Corée du Nord, j'ajoute que Pyongyang a rejeté hier le rapport de Human Rights Watch sur les abus sexuels commis par des policiers à l'encontre des femmes, en affirmant qu'il s'agissait, je cite, d'une manigance politique destinée à ternir l'image du pays. Enfin, dans la guerre commerciale, qui se joue cette fois-ci entre les États-Unis et la Chine. Le président Xi Jinping a promis une nouvelle fois ce matin d'ouvrir davantage le marché chinois aux importations, une manière pour Pékin de donner une leçon de libre-échange à l'Amérique de Donald Trump et plus précisément aux critiques qui accusent la Chine de revenir sur ses promesses de réforme. On termine avec un mot rapide du temps. Pour aujourd'hui, sec et doux au nord, agité et pluvieux au sud. Quant aux températures, elles seront globalement en hausse partout dans l'Hexagone, comprise cet après-midi entre 14 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.